RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Et nous y sommes. Merci d'être avec nous. C'est RMC. Nous sommes le dimanche 13 décembre 2020. Et nous voilà partis pour votre rendez-vous auto. Jusqu'à 10h, eh bien, vous le savez, RMC vous propose 3 heures d'auto en direct avec vos questions, bien sûr, au 3216, l'appli RMC Direct Studio et notre expert, notre spécialiste qui répond à toutes vos questions, même les plus tordues. Il est là et c'est Jean-Luc Moreau.
Bonjour Monsieur François, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Les questions les plus tordues, j'imagine que c'est les vôtres.
Ah bah toujours, je ne me permettrai pas vis-à-vis des auditeurs. Jean-Luc, tout à l'heure, on va parler des pneus hiver parce que, effectivement, c'est la saison et on va faire
un petit panégyrique.
Voilà, on va débriefer, en fait, tout ce qu'il faut savoir concernant les pneus hiver avec un porte-parole d'Allopneu qui sera avec nous.
Coralie Maslow, qui est la directrice marketing d'Allopneu. Allopneu, qui est le leader français de la vente de pneumatiques sur Internet. Et surtout, ils sont très bien placés en matière de pneus hiver. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un gigantesque stock qui leur permet de répondre assez rapidement à toutes les demandes.
Voilà,
alors c'est pratique. Toutes les demandes, justement. Est-ce qu'on peut équiper toutes les voitures avec des pneus hiver ? Combien ça coûte de mettre des pneus hiver ? Bon, ça sera des fourchettes, mais on prendra des exemples très concrets. Qu'est-ce que je fais de mes pneus hiver, mes pneus été quand je mets des pneus hiver ?
Et alors, bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions, hein, et vous en avez sans doute si vous faites de la route, si vous êtes en montagne, et pas forcément en montagne, hein, le 3216, la PRMC Direct Studio.
Vous avez vu cette semaine, il y a eu de la neige ailleurs qu'en montagne.
Et oui,
bien sûr. Ça y est, maintenant le froid est arrivé, même s'il y a un léger redout d'annoncer pour la semaine, on peut considérer qu'on va sans doute avoir cet hiver des épisodes neigeux,
et
parce
voilà.
Que ce n'est pas encore l'hiver. Non,
c'est vrai que ça arrive le 21. Notre bon plan sécurité, ça sera dans quelques minutes. Faut-il avoir une assurance pour faire de la trottinette ou du vélo électrique?
Ah oui, c'est le moment d'en parler, oui, parce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des trottinettes ou des vélos à assistance électrique sous le sapin de Noël.
Eh oui, mais est-ce qu'il faut les assurer?
Est-ce qu'il faut les assurer avant de les essayer?
Voilà. Qu'est-ce qui est assuré lorsque, par exemple, on prend des garanties sur des assurances?
Tiens, une autre question intéressante. Est-ce que quand je loue une trottinette électrique, elle est assurée?
On verra ça tout à l'heure. Notre minute verte, l'automobile peut-elle compter sur les carburants synthétiques? Vous nous expliquerez ce que c'est, tiens, les carburants synthétiques.
Ouais, une très intéressante étude de transport et environnement.
On parlera des restrictions de circulation pour les véhicules anciens tout à l'heure. Avec
Jean-Louis
Blanc.
Oui, parce que vous savez qu'en 2021, il y a plein de zones. En fait, à chaque fois, ça change de nom. Mais c'est des restrictions de circulation pour les véhicules les plus polluants qui vont être mises en place dans beaucoup de villes françaises. Alors, quid des voitures anciennes? Alors, il y a celles en carte grise de collection, mais il y a aussi ce qu'on appelle les youngtimers, donc des véhicules qui ont entre 20 et 30 ans. Est-ce qu'ils vont définitivement être arrêtés? Et est-ce qu'ils ne pourront plus circuler au moins pendant la semaine de 8h à 20h?
C'est ça.
On va rappeler que la nuit, on aura le droit. Enfin, sauf pendant le couvre-feu. Ça va être compliqué de rouler en voiture ancienne là, ces prochains temps.
C'est clair. L'essai de la semaine. Alors là, on se fait plaisir à quelques jours de Noël. C'est bien, Jean-Luc Moreau. Parfois, c'est la Dacia Sandero. Et après, c'est la Maserati Levante GTS.
Voilà.
Combien peut-on avoir de Sandero avec une Maserati, Jean-Luc?
Bon, quelques-unes, une petite dizaine.
Une petite dizaine, voilà.
Bah, ça dépend si vous prenez les options. En
plus. Ah oui, voilà. Parce que je pense qu'il y a quelques options qui coûtent le prix d'une Sandero sur une Maserati.
Oui, puis même rien qu'avec le malus que vous allez payer, vous pouvez déjà vous acheter deux Sandero. Rien qu'avec le malus.
Notre question pas si bête, est-on vraiment protégé de la foudre dans une voiture? Et puis on évoquera le palmarès des awards automobiles tout à l'heure en toute fin d'émission. Ça sera notre rendez-vous sur le vif. Voilà, vous savez tout, le 32-16, hein, ça c'est le plus important. À tout moment, vous pouvez décrocher votre téléphone, joindre Jean-Luc, poser votre question auto. Amina vous attend, le 32-16 ou bien l'appli RMC Direct Studio. On est connecté sur Direct Studio, vous pouvez poser toutes vos questions. C'est parti et on accueille pour débuter Pierre-Jean qui est là.
Allô, bonjour.
Bonjour Pierre-Jean.
Bonjour,
Pierre-Jean.
De vous entendre et d'être avec vous.
Pierre-Jean.
Merci d'avoir sélectionné la question.
Et bienvenue, vous êtes de la Loire, c'est ça, hein?
De la Loire, oui, au nord de Saint-Étienne. Voilà, alors j'envisage de changer de véhicule au cours des prochains mois et j'ai besoin de vos conseils. Alors, j'aimerais un break, une occasion récente. Alors, j'ai commencé à regarder un petit peu et pour l'instant, mon choix s'orienterait vers la Skoda Octavia Combi. Alors, je voudrais avoir votre avis sur ce modèle. pour savoir si c'est un bon choix ou s'il vaut mieux aller voir la concurrence.
Bah, c'est très bien, voilà. mais c'est surtout après la Skoda Octavia Combi, vous avez vu maintenant, il y a une offre de motorisation qui s'est considérablement élargie.
Voilà, alors c'est le point de la motorisation, là où je suis complètement...
Alors sur le véhicule, déjà on va commencer Pierre-Jean, sur le véhicule franchement, ça fait partie des bonnes affaires. Oui. Vous avez un véhicule qui va vous offrir une capacité de transport qui est juste énorme. Donc ça, c'est bien.
C'est ce que je cherche.
Voilà. Dans un format, je vais utiliser le mot acceptable. Pourquoi je dis acceptable ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde achète des SUV qui sont plus lourds, qui sont moins aérodynamiques parce qu'ils ont une surface frontale plus importante, donc ils consomment plus que des berlines. Vous revenez à une berline, enfin, en l'occurrence, un break. Donc voilà, un petit peu plus raisonnable, mais avec une capacité de chargement qui va être équivalente, voire même supérieure à beaucoup de SUV équivalents. Donc voilà.
Bon, voilà.
Moi, je trouve, quand on peut faire des choix comme ça, il ne faut pas hésiter. En plus, après, comme je vous disais, l'offre de motorisation s'est considérablement étoffée sur ce modèle.
Alors, justement, pour la motorisation, je fais entre 11 000 et 15 000 km par an, mais j'ai une caravane que je tracte environ 1 000 à 3 000 km selon les années.
Ouais, bon, vous partez en vacances avec la caravane, quoi. C'est-à-dire que quand vous allez au boulot dans la semaine, vous ne vous promenez pas avec la caravane.
Non, François
a toujours la caravane derrière la Fuego.
Ça dépend des années. Hein, 1 000 à 3 000, vraiment... les années où on part vraiment loin. Et voilà, alors c'est une petite caravane qui fait moins de 800 kilos en pleine charge. Voilà, c'est une Eriba.
Ouais.
Et alors, est-ce qu'il faut prendre un moteur essence avec moins de couple, mais une consommation un peu plus élevée, ou alors rester sur du diesel avec plus de couple
Moi, je serais... À partir du moment où on va tracter quoi que ce soit... Si on prend, alors on laisse l'essence de côté. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que un moteur essence, à partir du moment où il va être très sollicité, on va avoir une consommation qui va s'envoler, beaucoup moins qu'un diesel. Sous effort, c'est pour ça d'ailleurs que les gens aujourd'hui qui passent à l'essence, qui avaient l'habitude de rouler au diesel et qui ont le pied un peu lourd, se retrouvent avec des consommations qui s'envolent. Parce qu'un moteur essence, à partir du moment où on va beaucoup le solliciter, il va, comme je vous dis, c'est pas exponentiel, mais pas loin la consommation. Donc quand on a le pied léger, on peut avoir des consos presque équivalentes à un diesel. Par contre, si on a le pied lourd, là, le différentiel va être énorme. Donc quand on est soit souvent en charge, soit quand on tracte quelque chose, et vous me dites, ma caravane, elle est pas très lourde, elle fait 800 kilos. 800 kilos, c'est deux tiers du poids de la voiture quand même. Donc ça représente pas rien. Surtout si votre voiture, elle est chargée, parce que j'imagine quand vous partez en vacances, le coffre, il est plein, puis il y a du monde dans la voiture. Vous n'êtes pas tout seul.
On n'est plus que deux maintenant.
Vous n'êtes plus que deux, mais vous emmenez quand même, vous emmenez votre maison dans le coffre, sinon vous n'auriez pas pris un break.
C'est pratique un break, j'en ai déjà un, c'est trop pratique.
Voilà, donc vous roulez chargé, et là, c'est vrai que le choix du diesel s'impose. Alors on pourrait hésiter avec de l'hybride en se disant, c'est vrai, l'hybride, il y a un moteur électrique qui va donner un couple instantané au moment du démarrage. Le problème, c'est la taille des batteries. Les batteries... même sur de l'hybride rechargeable, sont pas énormes, et on va vite consommer l'énergie de la batterie dans les accélérations à chaque fois pour relancer quand on tracte quelque chose. Donc on va se retrouver en fait avec finalement une batterie... votre voiture va fonctionner en hybride, même si vous avez un hybride rechargeable, mais on va quand même avoir du poids supplémentaire qui servira pas à grand chose, en particulier quand on est sur des longs trajets. Si par exemple vous allez en vacances en montagne avec votre caravane dans la montée, au début la batterie sur les 20 premiers kilomètres, elle va être utilisée pour effectivement un surcroît de couple, et puis par la suite, vous allez traîner la batterie qui sera juste un poids mort. Donc c'est pas une bonne idée.
D'accord.
Pour tous ceux qui doivent tracter quoi que ce soit, le diesel reste aujourd'hui la meilleure solution. C'est pour ça que les camions restent des diesels.
D'accord. Même avec le 15 centièses, ça...
Même comme ça, vous allez avoir... quand vous serez en diesel, votre voiture, elle va consommer... quand vous allez tracter, vous allez être à 8-9 litres, vous serez à 15 litres si vous êtes en essence.
Ah oui.
Ben voilà.
Facilement, oui. Et alors, j'étais allé voir chez Toyota le RAV4 avec 4 roues motrices, parce que l'offre en hybride, lorsque l'on veut tracter, c'est peau de chagrin.
Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, il n'y a pas et beaucoup. Donc, vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut le problème des moteurs électriques, c'est qu'il faut qu'il y ait un système de refroidissement liquide des moteurs électriques, parce que quand ils sont soumis à des fortes contraintes, quand on tracte quelque chose, ils vont chauffer.
Et donc,
comme normalement, c'est des moteurs qui chauffent pas, il n'y a pas de refroidissement dessus, mais là, pour tracter, il faut qu'il y ait un refroidissement. Donc, certains hybrides peuvent tracter parce que c'est prévu, et d'autres ne peuvent pas.
Voilà. Donc, mais dans le futur, là, les moteurs thermiques vont disparaître, donc on va se retrouver.
Non, alors attendez, je vous arrête tout de suite. Les moteurs thermiques vont pas disparaître. Toutes les annonces qu'on a qui disent ouais, c'est la fin de l'essence, c'est la fin du diesel, c'est la fin des carburants fossiles qu'on annonce. Mais ça veut pas dire que le moteur thermique va disparaître. Il sera associé souvent à des moteurs électriques et il fonctionnera peut-être avec des carburants différents. Alors en France, on a une bonne solution. Et j'ai lu cette semaine, en plus, tiens, je vais remettre une petite couche. Moi, je trouve que l'éthanol, c'est une excellente solution. D'abord parce que c'est un carburant qui est produit en France, parce que 66% de CO2 en moins, en réalité, au moment où on est en train de nous dire, oui, on est en train d'exploser les compteurs en matière de réchauffement climatique, bon, ça reste une bonne solution. Et surtout en matière de pollution, là, on parle du truc qui vous fait tousser quand vous êtes dans la rue.
Et oui.
On a 90% de particules en moins, 90% de NOx en moins. Et ce que j'ai appris cette semaine, c'est qu'en plus, on a des hydrocarbures brûlés qui sont beaucoup moins toxiques que ceux de l'essence. Donc en fait, on gagne sur absolument tous les tableaux. Et puis vous gagnez enfin sur un dernier tableau, c'est que c'est 65 centimes à la caisse. Donc ça, c'est très intéressant. Donc dire demain, ces moteurs-là vont disparaître, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, vous savez, un hybride à l'éthanol, en termes de bilan global CO2, on n'est pas très loin d'une voiture électrique.
Oui, c'est ça.
Et c'est quand même plus simple à fabriquer et c'est beaucoup moins cher. Donc, dire les moteurs thermiques.
On n'a pas la contrainte du tout électrique.
Oui, complètement. Et dire les moteurs thermiques vont disparaître. Non, les moteurs thermiques ne vont pas disparaître. Les moteurs purement diesel, purement essence vont disparaître. Ça, c'est clair. Bon, après, on va peut-être les faire fonctionner avec d'autres carburants et ils seront mariés avec des moteurs électriques.
Pierre-Jean, merci pour votre appel. Voilà, et si, tout comme Pierre-Jean, vous voulez joindre Jean-Luc, poser votre question auto, profitez-en, c'est jusqu'à 10h, le 32-16, ou alors sur votre smartphone, via l'appli RMC, Direct Studio, vous nous laissez un petit message avec votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Il est temps de retrouver notre bon plan sécurité maintenant.
RMC, votre auto.
Hey, Daniel, explique-moi, c'est quoi le plan là ?
Le bon plan sécurité.
Et ce plan génial, messieurs, essayez.
Jean-Luc Moreau.
Alors Jean-Luc, on le sait, la grève des transports, fin 2019, début 2020, la crise sanitaire ensuite et une certaine prise aussi de conscience environnementale ont incité les Français à se déplacer autrement pour se rendre au travail. Beaucoup ont choisi le vélo, d'autres des trottinettes électriques et beaucoup de ces engins vont se retrouver donc forcément au pied du sapin de Noël. Mais est-ce que ces modes de transport nécessitent de posséder une assurance ?
Alors pour commencer François, on va parler de la notion de EDP, c'est-à-dire engin de déplacement personnel, c'est comme ça que ça s'appelle, hein. Le vélo, les patins roulettes, la trottinette simple sont des EDP et ne nécessitent donc pas d'assurance particulière.
Oui.
En revanche, ce qu'on appelle les EDPM, c'est-à-dire les engins de déplacement personnel motorisés, une catégorie qui comprend les trottinettes électriques, les overboard, les gyropodes, les skateboards à moteur, tout ça, ça doit être assuré au minimum responsabilité civile.
Et les vélos assistance électrique, Jean-Luc ?
Ça dépend de la puissance, en fait. La très grande majorité ne nécessite pas d'assurance. Mais si la puissance dépasse 250 watts, le vélo électrique est considéré comme un EDPM et doit donc être assuré.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une assurance responsabilité civile ?
C'est l'assurance qui permet d'indemniser les dommages qui peuvent être causés à un tiers en cas d'accident. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle souvent l'assurance au tiers. En revanche, elle ne couvre pas les dommages causés à son utilisateur, ni le vol. Dans ce cas, il faut souscrire des garanties complémentaires.
Et ça coûte cher de rouler avec une trottinette électrique sans être assuré ?
Oui, peu d'usagers le savent, hein. Selon l'article L324-2 du Code de la route, le défaut d'assurance est puni d'une amende qui peut aller jusqu'à 3750
euros. Ah, quand même.
Vous pouvez acheter quelques trottinettes.
Ouais. Jean-Luc, il y a beaucoup de trottinettes électriques qui dépassent aujourd'hui les 25 km/h autorisés, hein. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un accident, tiens ?
Alors, sauf si vous l'avez dit à votre assureur que tout le monde est au courant, que votre trottinette roule plus vite et que vous l'utilisez dans des conditions prévues. Pour ça, normalement, pas de problème. Mais c'est jamais le cas. Et et tous les EDPM ne doivent en aucun cas dépasser 25 km/h. En cas d'accident, s'il y a une expertise, le simple fait de dépasser cette vitesse annulera la couverture de votre assurance. C'est vous qui paierez les dégâts.
Donc. C'est le cas, par exemple, des vélos. Hein. Si un vélo va à plus de 25 km/h, on sort de cette catégorie.
Alors, si un vélo a une gâchette pour accélérer, parce que un vélo assistance électrique n'est pas considéré comme un véhicule à moteur parce qu'on pédale.
Oui,
c'est une assistance.
C'est une assistance.
Mais certains vélos plus puissants permettent d'accélérer sans avoir besoin de pédaler.
Exactement.
Et là, on est dans le cas de figure engin à moteur.
Et est-ce que les trottinettes de location, celles qu'on voit un peu partout dans les grandes villes, sont assurées, elles ?
Alors là, tiens, on va mettre un coup de pied dans la fourmilière. Pas toujours. Il faut être très prudent, lire le contrat.
Alors,
ce que personne
pourtant,
ne fait jamais.
Prestation.
Ah ouais, mais personne ne lit jamais les contrats. Certains loueurs de trottinettes électriques se dégagent totalement de leur responsabilité en indiquant clairement que le conducteur a l'obligation de souscrire lui-même une assurance dommages corporels et responsabilités civiles.
Et ça, on nous le dit pas.
Ah non, mais ça, non, et ça devrait être écrit en gros sur les trottinettes qui sont pas assurées. Alors, quand même.
Ou sur l'appli. Parce qu'en général,
sur l'appli.
C'est sur l'appli.
Mais oui, mais sur l'appli, personne ne le lit.
Ben non, non,
vous
non,
faites
non.
défiler le truc à toute vitesse.
Et bien sûr, on accepte les conditions générales.
Et puis voilà, ouais, vous lisez pas. Alors, on va quand même préciser que les grands loueurs, par exemple à Paris, maintenant, assurent les trottinettes, parce qu'il y a eu, il y a des précédents
bien sûr.
De gens qui sont décédés, qui n'étaient pas assurés quand même.
Hein. Quelle horreur. C'est terrible. Il faut faire attention vraiment à tous ces engins. On va revenir dans un instant, Jean-Luc. Nous aurons Daniel qui recherche une voiture pour faire des trajets sur autoroute de 300 km. Et il aimerait avoir votre avis, et notamment, pourquoi pas, pour un véhicule qui roulerait au bioéthanol, ou peut-être l'électrique, ou peut-être les deux. On va en parler dans un instant. Le 32-16, l'appli RMC Direct Studio.
RMC jusqu'à 10h. Votre auto. François Sorel. Jean-Luc Moreau.
Voilà, 7h30 pile, nous voilà de retour, le week-end des experts, l'automobile.
Il y a Julien qui nous envoie une petite blague,
ouais, hein,
parce qu'il pense que ce matin on n'était pas assez réveillés. Il nous dit voilà, monsieur et madame Lair ont un fils, comment s'appelle-t-il ?
Monsieur et madame Lair.
Lair, monsieur et madame Lair ont un fils.
D'accord.
On garde le suspense jusqu'à la fin de la...
De quoi, de l'émission ?
Non,
ça va faire long quand même,
pas la
pour une blague.
La
parce que même
la
si j'ai beaucoup de respect pour notre auditeur, elle n'est pas excellente, excellente.
Non,
c'est bien.
Elle s'appelle Accélère,
ouais. D'accord. Bon, bah, écoutez, voilà, elle est faite.
Oui, hein, oui, oui, hein. Oui.
J'imagine que beaucoup d'auditeurs ont dû pouffer de rire et renverser leur café.
Voilà, monsieur et madame Breil ont un fils, il s'appelle Jean Breil.
Oui, très bien. Bon, on va arrêter là.
Accélère, Jean Breil.
Oui, et Daniel, tiens, qui est au 32-16. Sauvez-nous de ce mauvais point, Daniel, s'il vous plaît, je vous en supplie.
Bonjour Daniel.
Bonjour la Dream Team, j'ai du mal à m'en remettre. Hein.
Vous n'avez pas un monsieur et madame sous la main là.
Non, non, désolé, non, non.
Ouf. Vous nous appelez de la Marne, Daniel.
Oui, tout à fait. J'habite à côté de Reims, dans un petit village magnifique. Alors, dans le cadre de mes nouvelles activités, parce que je viens de démarrer mon entreprise, on travaille dans des PME, et je me déplace dans un rayon de 300 km à peu près, et j'ai un premier client qui est à peu près à 250 km. Et j'avais dans l'idée d'acheter un véhicule, pour être plus précis, une 308 130 chevaux, plutôt récente, et progressivement de la passer au bioéthanol. Et en vous écoutant le matin...
Pas forcément une bonne idée, parce que les moteurs PSA, ils n'aiment pas trop le passage à l'éthanol. En fait, il y a beaucoup de moteurs, on se rend compte que plus les moteurs ont été travaillés pour consommer moins ils acceptent de passer à l'éthanol. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des fonctionnements, ce qu'on appelle en mode stratifié, qui sont des modes de fonctionnement pauvres. Et quand on les passe à l'éthanol, ça ne marche pas bien dans ces modes de fonctionnement-là. Donc, les fabricants de boîtiers ont réussi à adapter, mais ça reste une adaptation. Donc, ça marche moins bien que certains autres moteurs. Quand je dis certains autres moteurs, je pense par exemple au moteur Toyota qu'il y a sur les hybrides qui, eux, adorent passer à l'éthanol.
D'accord.
Voilà. Bon, alors, non, sinon, Daniel, votre client qui habite à 250 km, faut qu'il déménage, qu'il soit près de chez vous.
Mais oui, bien sûr.
Ouais,
vous avez entendu les écolos qui ont dit, non, il faut arrêter l'automobile, hein, franchement, ouais. Demain, tout le monde sera dans des transports en commun. Donc, ça serait bien qu'il déménage près de chez vous, dites-leur.
Ouais, tout à fait.
Hein,
ouais. Alors, dans la suite, je, en vous entendant le matin, je me suis arrêté à la concession Kia.
D'accord.
Et vu que je reste systématiquement toute la journée, voire deux jours chez mes clients, Je me disais pourquoi pas passer directement à l'électrique, parce que je vous ai entendu parler de grosses économies quand il y avait quelqu'un qui était un peu intervenu il y a quelques semaines sur le fait de faire des distances un peu plus longues.
Mais non, mais là, votre problème à vous, c'est que vous faites de l'autoroute. Et pour l'autoroute, l'électrique tel qu'il existe aujourd'hui, c'est encore pas la bonne solution, quoi.
D'accord.
Parce que vous allez consommer beaucoup plus, c'est pareil. Hein. Tout à l'heure, on évoquait les moteurs à essence qui se mettent à consommer beaucoup lorsqu'on les sollicite. C'est pareil hein, sur un moteur électrique. Quand vous êtes à 120, ça va, vous avez encore une autonomie qui est raisonnable, mais vous allez, comme vous faites vous, des longs trajets, vous allez être à 130, 135,
voilà, il faudrait
140
votre...
compteurs, mais bon, ça va, là c'est pas...
Il faudrait que votre client ait une borne, quoi.
Voilà,
c'est ça, le truc.
Que vous ayez une grande rallonge de 250 km de long, quoi.
Non, mais c'est, si par exemple, son,
vous, si, vous allez si toujours, votre client a une borne,
vous
oui,
allez toujours,
ouais, toujours chez le même client.
Quand je pars, c'est des missions de un an, donc généralement, il y a là sur ce client-là, il y a une borne à côté.
D'accord. Elle fonctionne la borne, parce que vous avez vu en fait. Aujourd'hui, il y a des bornes, mais il y en a plein qui marchent pas.
Bah, a priori, oui, puisqu'il y a un véhicule électrique qui se connecte de temps en temps dessus.
D'accord. Ça peut être une idée.
Parce
ça peut
restez...
être une idée parce que de toute façon les 300 bornes, même sur l'autoroute, le Kia Niro il les fait.
C'est les 300 aller-retour.
Non, 300 aller.
Ouais, mais vous m'avez dit je reste deux jours au minimum quand j'y vais.
Ouais, c'est ça.
Vous avez le temps de recharger, il y a pas de problème. Même avec une borne compte-goutte, comme la plupart des bornes qui sont en voirie, vous avez le temps de recharger.
Hein.
Donc ça peut être une solution. C'est pas la solution idéale pour le moment, comme je vous disais.
Ouais.
C'est peut-être plus intéressant, justement, de passer sur de l'éthanol. L'éthanol,
d'accord,
à l'inverse, allez, voyez, tiens, et hop, on va rentrer un peu dans la technique. L'éthanol, à l'inverse, plus on va rouler vite, moins la surconsommation sera importante. Pourquoi ?
D'accord.
Parce que l'éthanol a un indice d'octane qui est de 104, alors que le supercarburant a un indice de 95. Donc, on aura un point de rendement de moteur plus efficace. Donc, quand on va être vraiment dans les tours avec un moteur à essence qui tourne à l'éthanol, la surconsommation sera moins importante, d'autant plus que on n'a pas besoin, avec de l'essence, ce qu'on fait quand on est vraiment à haut régime, on enrichit le mélange pour refroidir. On refroidit avec de l'essence. Donc, ça coûte cher en consommation. Il n'y a pas besoin de le faire à l'éthanol parce qu'à l'éthanol, la température de combustion est plus basse. Donc, on n'a pas besoin de faire ça. Donc, en fait, pour être clair, tiens, en Allemagne, à fond sur l'autoroute, vous, au lieu d'avoir une surconsommation qui va être de 25%, vous serez à 11%. Donc, on a tout intérêt, en fait, quand on est à l'éthanol, on a tout intérêt à avoir le pied un peu plus lourd.
Et un véhicule à l'éthanol consommé ?
Je sais pas, vous voulez quel type de véhicule ? Parce qu'on n'a pas évoqué ça quand même. Vous m'avez parlé du Niro, mais vous voulez un truc dans le genre ? Qu'est-ce que vous voulez ?
Moi, je suis plutôt... habituellement, j'ai une 508 GT 200 chevaux.
D'accord, 120. Vous voulez un truc avec des watts, quoi.
Une voiture qui a... Moi, j'étais parti sur la 308-130 chevaux. Voilà, c'est un véhicule qui a du confort de conduite et puis confort de la route. Donc, je suis en rouleur. Et puis, j'ai de la petite route nationale, mais...
Et c'est quoi votre budget ? Vous la voulez neuve, la voiture ?
Oui, parce que je peux la financer en leasing. Donc,
Mais attendez, vous me dites oui, je la veux neuve, mais c'est quoi votre budget ? Parce qu'il y a le Maserati Levante GTS, là, qui est pas cher.
À l'éthanol ?
À 138 900 euros, hein, plus 20 000 euros de malus.
À l'éthanol ?
Non, il n'est pas à l'éthanol.
Ouais.
Non, comme vous me dites, si vous avez un budget illimité, on va pas être embêté sur le choix du véhicule.
Non, j'étais parti
clair.
Sur le Kia, le montant du Kia Niro, il passait. Donc
bon, je vais vous livrer un scoop.
Aïe.
Je vous l'ai pas dit. D'ailleurs, que tous les gens qui nous écoutent coupent leur poste. Ce que je vais vous dire, j'ai pas le droit de vous le dire. Mais fin janvier, vous pouvez attendre fin janvier, Daniel.
Oui, j'en suis. Oui.
Voilà. Fin janvier.
Pourquoi j'en suis ?
Bah non,
de toute façon, ça va vite arriver là.
Fin janvier, c'est là, c'est demain.
Et oui.
C'est demain, fin janvier. Fin janvier, Ford va présenter une nouvelle gamme de véhicules flex fuel d'origine avec le moteur 1.5 litre EcoBoost dans des puissances qui iront jusqu'à ce que vous voulez. Hein, il y aura trois modèles qui vont être présentés fin janvier.
D'accord.
Voilà. Et il y aura même par la suite de l'hybride éthanol aussi chez Ford.
Mais est-ce que ça va vite sortir après l'annonce ?
Ah oui, non, mais ça sort fin janvier.
Ça sort fin janvier.
Ça va arriver dans la foulée, les véhicules sont prêts. Pour l'instant, c'est secret. Je ne vous ai rien dit. Je tiens ça de Louis-Carl Vignon, c'est quand même le président de Ford France. Donc
ils vont faire une fiesta pour ça ou pas chez Ford ?
Oui, ils vont faire une grosse fiesta.
Oui.
Malheureusement, nous, on n'en parlera pas. parce que je vais le dire, François, on sera plus là l'année prochaine.
Oui, bah, voilà. Ça c'est une mauvaise nouvelle. Ouais. Oui,
donc, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler, mais on avait au moment où Ford m'a annoncé, puisqu'en fait, vous savez, historiquement, c'est moi qui ai convaincu le PDG de Ford de faire un modèle à l'époque Flexfuel qui s'est très bien vendu, mais qui était sur une vieille génération de moteurs, et ça s'est tellement bien vendu qu'ils ont décidé sur les nouveaux moteurs de développer une gamme aussi Flex. Et donc elle va arriver. Je vous prédis d'ores et déjà que ça va faire un carton. Vraiment, ça va faire un carton.
Faut voir les prix. Faut voir les prix.
Oui, non, mais les prix, ça sera les mêmes que les modèles essence. C'est ça le gros avantage de l'éthanol, c'est que vous n'avez pas de surcoût. Donc les modèles vont arriver au prix des modèles essence, mais vous pourrez rouler avec un carburant qui va coûter moitié moins cher.
Daniel, merci beaucoup. Et donc, si vous pouvez attendre un petit peu encore, voilà. Mais on n'a rien dit. Enfin, vous n'avez rien dit, hein, Jean-Luc. On vous a pas entendu.
J'ai rien dit. Non. Pourquoi? J'ai entendu quelque chose, vous?
8h moins 20.
Vous savez que les aides auditives vont être remboursées à 100% l'année prochaine, en plus.
Ah, hein. Ça, c'est bien. Ça va vous faire plaisir.
Comment?
Allez, on revient dans un instant sur RMC. On va retrouver notre minute verte. L'automobile peut-elle compter sur les carburants synthétiques? Ce sera dans une minute. Et puis bien sûr, vos questions
synthétique,
auto.
Priez pour nous, évidemment.
Bien sûr. 32-16 ou l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 10h. Votre auto. RMC jusqu'à 10h. Votre auto. François Sorel. Jean-Luc Moreau.
Le retour de votre tour, on est là jusqu'à 10h, le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. N'hésitez pas à nous appeler pour poser toutes vos questions. On retrouvera l'actu aussi de cette semaine. Tout à l'heure, on va parler du malus au poids qui va être supprimé, du bonus pour les véhicules électriques d'occasion qui est effectif. La transformation aussi de l'usine Smart tout à l'heure. Hein. Mais d'ici là, bien sûr, à tout moment, vous pouvez nous joindre, le 32-16, l'appli RMC Direct Studio.
Une autre blague. Aïe. Oui, non, mais celle-là, elle est bien, je ne la connaissais pas en plus. C'est Pierre-Yves qui nous l'envoie. Monsieur et Madame Talu en quatre fils, comment s'appellent-ils? Ils s'appellent tous Jean, ça fait quatre Jean Talu.
Eh oui, quatre Jean Talu.
À 8h moins le quart, c'est violent. Mais celle-là, elle est bien.
Ah oui.
Celle-là, elle est bien.
Elle est très, très, très bien.
Celle-là, elle est bien. Ouais, et puis, pour être plus sérieux, on a Stéphane qui nous dit pour Daniel, qui a posé sa question précédemment, un Lexus IS300H avec kit éthanol. Il a raison, Stéphane. C'est vrai que c'est bien.
Eh oui. C'est bien Lexus en plus.
Et puis ça marche très bien. Ça marche très bien l'éthanol en plus.
On va retrouver Christian dans un instant qui souhaite effectuer la vidange de sa boîte auto. Mais auparavant, notre minute verte.
RMC, votre auto.
La minute verte.
Et on va parler des carburants synthétiques, Jean-Luc.
Voilà. Est-ce que c'est une bonne idée pour la voiture du futur? On en entend parler. Alors, qu'est-ce qu'on entend par carburant synthétique? C'est des carburants qui sont pas issus, évidemment, du
fossile.
Voilà.
D'accord.
Issus du fossile, qui sont fabriqués à partir d'autres sources d'énergie. On considère comme carburant synthétique, par exemple, l'hydrogène, vous savez, l'hydrogène qui est fabriqué soit à partir du gaz naturel, ce qui est le cas en ce moment, mais qui demain devrait être fabriqué à partir de renouvelables, c'est-à-dire à partir d'électrolyse de l'eau, donc à partir d'électricité, et puis l'électrolyse, vous l'avez fait à l'école. Vous êtes allé à l'école, François?
Oui, bien sûr.
Vous faites ça avec
il y a longtemps.
Une pile plate 4,5 V.
Oui.
Ah, c'était rigolo, on pouvait fabriquer de l'hydrogène. J'ai fait péter quelques culs de tubes à essai en faisant de l'hydrogène quand j'étais plus jeune. Donc voilà.
Les profs devaient vous détester.
Non, c'est surtout mes parents. Ça va faire sourire ma mère, je sais qu'elle écoute. Oui. C'est vrai que je faisais des expériences de chimie dans ma chambre jusqu'au moment où on m'a confisqué mes boîtes de chimie parce que bon.
On s'est dit, c'est pas le bon profil.
Ça va devenir dangereux. Non,
alors on y va.
Le transport environnement, donc il parle de transport et environnement, une ONG européenne a fait faire une étude par Ricardo Énergie et Environnement sur ces fameux, alors on les appelle aussi des électrocarburants, hein, mais en particulier, là c'était sur l'hydrogène et le e-diesel. Alors, il ressort de cette étude que en alimentant seulement 10% des voitures, des camionnettes et des petits camions avec de l'hydrogène et 10% avec du e-diesel, ça nécessiterait d'augmenter de 41% les énergies renouvelables en 2050 par rapport au même parc de véhicules qui fonctionne à l'électricité sur des batteries. En gros, ça veut dire que l'hydrogène, vous le savez, qu'on nous présente comme une solution d'avenir, c'est 41% d'énergie nécessaire au départ en plus par rapport au même véhicule s'il est équipé de batteries. Donc, c'est pas extrêmement rentable. Si la moitié, également dans cette étude, si la moitié des poids lourds fonctionnaient à l'hydrogène et l'autre moitié au diesel, ils consommeraient 151% d'énergie renouvelable en plus par rapport au même parc de poids lourds directement électrifié. Donc on voit bien que pour le transport routier au moins, ces carburants synthétiques ne sont pas une bonne idée. Il faudrait produire beaucoup plus d'énergie en amont.
Et oui, pour fabriquer ce carburant.
Ouais. Et vous savez ce que ça représente? En plus, j'aime beaucoup. Ils disent, en gros, il faudrait couvrir un pays de la taille du Danemark entièrement d'éoliennes offshore pour compenser cette surconsommation d'énergie.
Ah oui.
Bon, tous ceux qui habitent au Danemark, il va falloir qu'ils vendent leur maison parce qu'ils vont habiter sous des éoliennes.
Et puis, ils vont avoir du vent, hein.
Voilà.
C'est sûr.
Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle une fausse bonne idée. En revanche, là où l'étude démontre l'utilité de ces carburants synthétiques, c'est pour le transport aérien, puisque dans les avions, on sait très bien qu'un avion électrique qui emporte des batteries, ça ne sera pas possible. Donc, il faudra trouver d'autres sources de carburant. Donc là, ça sera utile. Et pour les bateaux, parce que c'est vrai que les bateaux, aujourd'hui, c'est une source, on en parlait la semaine dernière, tiens, une source de pollution énorme. Et il faudra à un moment arriver à... Alors, je ne sais pas si on dit décarboner, décarboniser. J'entends un peu tout, d'ailleurs. Tiens, si vous êtes érudit en langue française, dites-nous quel est le bon mot qu'il faut utiliser. Parce que je n'ai pas trouvé dans le dictionnaire, en plus. Donc, décarboner les bateaux, ça sera une des priorités, je pense, bientôt. Et là, pour le coup, l'hydrogène peut avoir des vrais gros débouchés. Donc, il y a des débouchés. Il y a de l'avenir pour l'hydrogène, mais dans la voiture de monsieur tout le monde, c'est ce que je dis depuis longtemps. Alors, je sais que les gens d'Air Liquide qui nous écoutent, ils n'aiment pas quand je dis ça, mais bon, ils arriveront à vendre leur hydrogène, il n'y a pas de problème, mais pas pour les voitures de monsieur
tout le monde. Non, ça c'est clair, bien sûr. Il est 7h48, on enchaîne avec Christian qui est avec nous au 32-16. Bonjour Christian.
Bonjour François, bonjour Jean-Luc.
Bonjour Christian.
Merci d'avoir sélectionné ma question.
Christian du Haut-Rhin donc.
Exact.
Alors on vous écoute.
Donc, je vous écoute avec grande attention tous les week-ends et j'ai entendu Jean-Luc à différentes reprises évoquer et conseiller de vidanger les boîtes automatiques. Je possède une Clio 4 GT essence 120 chevaux, boîte auto, qui vient de passer les 100 000 km.
D'accord.
Donc j'ai eu récemment un problème de train avant qui a nécessité un passage chez Renault. Oui. Comme elle était immobilisée, j'en ai profité pour demander la vidange de boîte.
Et
l'agent Renault
besoin,
m'a indiqué que ce n'était pas du tout nécessaire.
Oui, bien sûr.
Que le constructeur ne le préconisait pas.
Oui. C'est pas le constructeur qui fabrique les boîtes auto, donc le constructeur il peut préconiser n'importe quoi. Juste le fabricant de la boîte dit lui il faut la vidanger. Alors d'après vous, qui a raison?
Celui qui fabrique la boîte.
Voilà. Alors celui qui fabrique la boîte dit ça se vidange. En plus votre voiture a 100 000 km. Donc ce qui va se passer. Alors votre concessionnaire Renault, il est sûrement très content de vous dire faut pas vidanger la boîte parce que qu'est-ce qui va se passer? Petit à petit, votre boîte avec l'huile dedans qui est en train de s'user gentiment, qui est en train de s'oxyder, votre boîte, elle va avoir des passages de rapport qui vont être moins fluides. Donc il y aura des à-coups, elle sera moins réactive, c'est-à-dire que quand vous accélérez pour rétrograder, ça prendra plus de temps. Enfin bon, voilà, ça va consommer plus. Et puis un jour, il vous dira, votre boîte, il faut la changer, elle est foutue. Voilà. Donc, c'est plus rentable, parce qu'une boîte...
Et la garantie sera passée. Donc
ça sera 5000 euros. Moi, je vous conseille de faire une vidange avant. Alors, attention, prudence, on va le redire. Une vidange de boîte de vitesse, ça se fait faire par un spécialiste qui connaît le boulot. Parce qu'il faut la vidanger à une certaine température, il faut mettre précisément la bonne quantité d'huile. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas se risquer. Il y a beaucoup de gens... J'ai eu pas mal d'auditeurs qui à chaque fois que je parle de la vidange des boîtes automatiques, et on en parle de plus en plus souvent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la majorité des voitures est équipée de boîtes automatiques, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et franchement, le réseau en matière d'entretien, ils ont un train de retard par rapport à ça. Ils auraient dû se mettre un petit peu à la page. Alors, il y a des formations. Il y a des formations pour ceux qui nous écoutent et qui sont des professionnels de l'automobile qui n'ont pas encore la compétence sur les boîtes automatiques. Il y a des formations qui permettent de maîtriser tout ça. Et je dis demain, ceux qui auront un petit peu d'avance et qui sauront réparer ou entretenir les boîtes automatiques, ils auront une clientèle fidèle qui va venir chez eux. Et puis les autres, ils regarderont passer le train et on leur offrira un mouchoir pour qu'ils puissent aller pleurer. Et ça sera le cas de votre concessionnaire Renault qui dit, ça se vidange pas. Et il a raison. S'il veut perdre des clients, il continue comme ça.
Il me dit qu'il n'y a aucun retour en atelier pour panne.
Oui, bien sûr. Non, mais évidemment, il n'y a jamais de panne, sauf quand il faut changer la boîte.
Oui, c'est clair.
Non, 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 ça se vidange une boîte automatique.
Donc ma seule solution, c'est de trouver quelqu'un de compétent pour le faire.
Mais des spécialistes, mais je vais pas faire même les centres auto s'ils sont mis aujourd'hui. Alors le truc, c'est qu'il y a les fabricants de lubrifiants ont fait des machines qui font automatiquement la vidange, c'est-à-dire elles font chauffer l'huile de la boîte de vitesse et elles retirent la l'huile usée, elles remettent exactement la même quantité d'huile dedans, tout ça automatiquement pour éviter justement les erreurs de process qui peuvent mettre en panne les boîtes automatiques. Ce que j'allais dire juste avant, c'est que j'ai beaucoup de gens qui m'envoient des messages en disant « moi j'ai fait faire une vidange de boîte, puis finalement ça a cassé la boîte oui. ». Ça a cassé la boîte parce que ça a été mal fait. Donc il faut aller soit chez un vrai spécialiste, soit chez des gens qui ont des machines qui font ça automatiquement. Et on en trouve un petit peu partout. Hein.
Ouais, et des vrais spécialistes, il y en a toutes les régions.
Oui, il y en a un petit peu partout. Alors il y a ZF qui est un fabricant de boîtes, c'est pas le fabricant de votre boîte à vous, mais ils peuvent faire la vidange sur des boîtes qu'ils n'ont pas fabriquées. C'est le même process pour faire la vidange d'une boîte automatique.
Ça prend du temps, ça ?
Non ! En plus, ça prend pas longtemps. C'est ça qui est complètement dingue. Mais c'est pas comme une vidange de moteur. Vous enlevez le bouchon, vous laissez couler l'huile, vous remettez le bouchon, vous changez le filtre à huile et puis vous refaites le plein. C'est pas du tout comme ça. C'est beaucoup plus compliqué.
D'accord.
Bon, voilà. Je sais ce qu'il me reste à faire.
Exactement.
Voilà, il me reste à chercher. Ouais.
Merci Christian. Merci. Bon dimanche.
Merci
au revoir.
Bon dimanche. Au revoir.
Et tout comme Christian, vous voulez joindre Jean-Luc, on revient dans quelques instants, après la météo, les infos, vous pouvez nous joindre au 3216 via l'appli RMC et Direct Studio.
Monsieur et Madame Patamob ont un fils.
Alors, monsieur et madame Patamob, ouais.
Non, parce que tout le monde est parti ce matin sur ça. Hein. Monsieur et madame Patamob ont un fils, c'est Adhémar Patamob.
Adhémar Patamob.
Et voilà. Mm-hmm.
Ouais. C'est une très mauvaise idée, ces monsieur et madame, j'ai l'impression. Non ?
Pourquoi ?
Je sais pas.
Mais non, mais ils sont toutes liées à l'automobile, c'est ça qui est bien.
Oui. Bon, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Bref. Attention, Jean-Luc, reconcentration, s'il vous plaît. L'actu de la semaine dans le monde de l'automobile est le malus au poids supprimé par les sénateurs.
Vous allez me dire, les sénateurs, le malus au poids, il intéresse à supprimer.
Ah non. Non,
non, je peux pas le dire, ça, voilà.
Mais vous attaquez les physiques, c'est pas gentil.
Ouais, lors de l'examen du projet de loi de finances 2021, le Sénat, majoritairement à droite, a décidé de supprimer le dispositif du malus au poids. Introduit par le gouvernement en première lecture à l'Assemblée. Cette nouvelle taxe doit, je vous le rappelle, toucher les véhicules de plus de 1 tonne 8, exception faite des hybrides rechargeables et des électriques. Bon, de toute façon, on va le dire, hein, même si ce malus était réintroduit lors d'une prochaine lecture à l'Assemblée nationale, ce qui sera le cas, il sera sans doute censuré derrière en France. Et si ce n'est pas le cas, il sera censuré par Bruxelles, car il ne touche aucun véhicule français. Il est donc assimilé, ce malus, à du protectionnisme et ça n'a aucune chance de passer.
Donc, voilà, ça va disparaître.
Donc, c'est un non-sujet, en fait. Voilà.
Parfait. Le bonus pour les véhicules électriques, lui, et attention, les véhicules d'occasion, est effectif.
Oui, ça y est. Depuis le 9 décembre, on peut bénéficier de 1 000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique d'au moins 2 ans. L'État a également confirmé que le bonus pour les véhicules électriques neufs de moins de 45 000 euros reste fixé à 7 000 euros pour un particulier et 5 000 euros pour un professionnel jusqu'au 30 juin 2021. Les 2 000 euros pour les hybrides rechargeables de moins de 50 000 euros, dont l'autonomie électrique est supérieure à 50 km, ça fait beaucoup de conditions, mais ils sont prolongés également jusqu'à la même date, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2021.
Bon, ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un véhicule, on veut acheter un véhicule d'occasion.
Un véhicule électrique, vous avez 1 000 euros de bonus s'il a plus de 2 ans.
Voilà, hein, ça donc, c'est pas mal.
Voilà, et puis vous conservez les 7 000 euros si vous achetez un véhicule électrique neuf, si vous êtes un particulier. S'il coûte moins de 45 000 euros.
L'usine smart de Hambach.
Hambach.
C'est comme l'or, en fait.
C'est exactement.
En Lorraine, racheté par le Britannique Ineos.
En Lorraine, l'or, Hambach. Voilà.
C'est ça. Ouais. Allez, on y va.
Ah, c'est la fin d'une époque qui me tenait un peu à cœur, puisque je vous l'avais déjà raconté. C'est moi qui avais présenté l'inauguration du site en compagnie de Jacques Chirac et Helmut Kohl. Cette usine moderne produira à partir de 2022 un 4x4 pur et dur, qui ressemble un peu à l'ancien Land Rover Defender. Hein. Toutefois, la fabrication de cette antiquité technologique, parce que c'est le cas, qui s'appelle le Grenadier, ne sera pas suffisante dans un premier temps pour occuper tout le personnel de Smartville. Daimler va donc sous-traiter l'assemblage des Smart électriques Fortwo à l'usine, qui sont des voitures électriques, jusqu'en 2024.
Jean-Luc, bientôt 8h, météo, info, et on attaquera notre deuxième partie. On parlera des restrictions de circulation pour les véhicules anciens pour 2021. L'essai de la semaine, question pas si bête. Et bien sûr, toutes vos questions auto. 32-16, l'appli RMC Direct Studio, météo, info. On est de retour, à tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.